Parfait, sans essai, premier coup, parfait. Bonsoir à tous, merci d'être présents à ce 78e rendez-vous du Pôle Info Santé. Il y a beaucoup d'habitués parmi nous, mais pour ceux qui viendraient pour la première fois, ces rendez-vous sont organisés en partenariat entre le CHU, qui a une mission, d'éducation à la santé, et l'Espace Mendès France, qui nous accueille ici ce soir, et comme il le fait depuis maintenant 14 bonnes années. Voilà, donc nous organisons 4 ou 5 conférences dans l'année pour échanger, pour permettre au grand public, un public qui n'est pas spécialiste, d'échanger sur des grands sujets de santé publique avec des professionnels de santé, généralistes ou hospitaliers. Ça va être le cas ce soir, nous allons parler des anévrismes de l'aorte, comment éviter la rupture. Je vais céder la parole très rapidement à nos intervenants qui vont faire une présentation et assez courte, mais ça ils le savent, pour permettre ensuite, pour vous permettre de poser toutes les questions que vous aurez envie de poser, et pour permettre de débattre avec eux. D'ores et déjà, vous verrez que vous avez deux possibilités pour poser les questions. Soit vous prenez le micro qui circulera dans la salle, soit vous pouvez poser vos questions qui se trouvent sur un papier ou dans les dossiers que nous avons mis de documentation. Vous avez une petite feuille où vous pouvez me faire remonter les questions si vous êtes timide. Voilà. Juste avant de passer la parole à nos intervenants, vous avez dans les dossiers un petit questionnaire d'évaluation. Merci de penser à le remplir. Ça nous permet d'essayer d'améliorer les choses à chaque fois. Voilà. Et de mieux vous connaître aussi et de connaître les sujets qui pourraient vous intéresser. Je laisse la parole à nos trois intervenants. Merci.
Bien. Je vous remercie, d'être venu. On va vous parler d'un sujet qui est, que vous connaissez sans doute pas très bien, qui est pourtant très connu en dehors de la France à cause des complications que cela entraîne. Et on va essayer d'être clair. Donc je vais commencer à vous parler de ce qu'est un anévrisme, de façon la plus simple possible. Ensuite, on aura le point de vue du médecin généraliste, le docteur Gavid, qui est présent. Et puis on terminera par un aperçu de ce que peut être une certaine innovation technologique et dont qu'on fait à Poitiers et qui donc peut vous intéresser directement si vous avez cette maladie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'aorte et qu'est-ce que c'est qu'un anévrisme? Alors par définition, un anévrisme, c'est une dilatation d'une artère, d'un vaisseau avec une perte du parallélisme des bords. Elle peut intéresser toutes les artères du corps. Et si vous voulez, vous avez ici un vaisseau qui est normal, au-dessous, et vous avez une dilatation, comme une hernie dans un pneu. Hein, c'est ce qu'on appelle un anévrisme. Et on s'intéressera essentiellement aux anévrismes qui siègent sur cette partie, c'est-à-dire sur l'aorte, qui est la grosse artère qui sort du cœur et qui donne toutes les branches pour de la vascularisation de l'ensemble du corps. Donc c'est cette dilatation qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, quelle est la fréquence? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de fréquent? Est-ce que c'est très rare? Est-ce que ça a peu de chances d'arriver? Ben, c'est assez fréquent. Et vous voyez que c'est relativement lié au sexe. C'est beaucoup plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Et 5% de la population, 5% des hommes après 60 ans. Ce qui n'est pas une petite fréquence. Hein. On a observé que le taux d'incidence augmenter les 10 et 15 dernières années avec une augmentation des décès par rupture. Alors, ce qui est troublant, c'est que cet anévrisme, il est situé très profondément dans l'abdomen, il est contre le rachis et il ne donne aucun signe jusqu'à sa complication. Il est complètement latent, si vous voulez. Donc, il est découvert de façon accidentelle, je dirais, par la palpation de l'abdomen quand il devient gros et quand on n'est pas obèse, parce que sans ça, on ne palpe rien. Par une échographie qui est faite pour autre chose, une pathologie vésiculaire ou vésicale, ou évidemment par la rupture. Oui. Alors, la palpation est extrêmement importante, hein, on trouve une masse battante et expansive, et même aux États-Unis, si vous voulez, il y a une campagne où on apprend aux gens à se palper le ventre, puisque finalement c'est un moyen comme un autre de faire le diagnostic. Diapositive. Alors, effectivement, si vous voulez, voilà un anévrisme de l'aorte abdominale qu'on a été amené à opérer. Vous voyez que c'est très très visible. Alors ça peut vous paraître quelque chose qui est historique, mais quand on sait que la croissance d'un anévrisme en moyenne de 5 mm par an, c'est quand même extrêmement latent et ça laisse penser que peut-être que le dépistage manque dans notre population. Diapositive. Alors, sur une radiographie, même sans préparation, on peut voir des calcifications de l'anévrisme. Hein. Diapo. Ouais. Alors, le dépistage, et c'est vraiment le point important de ce soir, hein, c'est extrêmement simple. C'est une simple échographie abdominale après 60 ans. Une seule. Parce que si à 60 ans, vous n'avez pas d'anévrisme, à 70, 80, vous n'en aurez pas. Hein. Le développement d'un anévrisme se produit de façon relativement linéaire, avec quand même des décroissances ensuite à partir d'une certaine taille qui sont plus rapides. Mais une seule échographie suffit. Hein, comme pour la femme enceinte, une échographie. C'est un examen extrêmement simple. Diapo. Alors, le dépistage n'est pas pris en charge en France par les caisses de sécurité sociale. Néanmoins, il est pris en charge. Il n'est pas remboursé, il n'est pas compris comme étant... comme faisant partie d'une priorité de santé publique. Il est en Grande-Bretagne, il est aux États-Unis, c'était voté par le Sénat américain il y a 3 ans, il est dans tous les pays du nord de l'Europe. Et il y a eu plus de... alors c'est un peu de la spécialisation, mais enfin, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, il y a eu plus de 30 études randomisées qui ont été faites sur le sujet, avec tirage au sort des malades, et qui ont prouvé que le dépistage est efficace, qui réduit la mortalité, le risque de rupture de 55%, hein, et qui s'adresse uniquement, pour être rentable au point de vue économique, entre parenthèses, aux hommes de plus de 60 ans. Donc, par exemple, en Angleterre, chez les médecins généralistes, ce dépistage est fait au niveau du médecin généraliste, et chez les médecins généralistes, il y a une technicienne, une échographiste, qui fait le tour, hein, du comté, et où on convoque les malades qui ont plus de 60 ans, et ils ont une simple échographie. Diapo. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on voit la dilatation. Hein. Vous avez ici une échographie, donc c'est un examen extrêmement simple, et vous voyez ici le diamètre. Ici, c'est un anévrisme de 8 cm de diamètre, donc extrêmement gros, avec un thrombus, il y a du caillot à l'intérieur. Hein. Diapo. Vous voyez, sur ces clichés, eh bien, vous avez le diamètre en hauteur, en largeur, et donc c'est parfaitement visible. Alors, voilà exactement ce que c'est. Alors, on peut le préciser, et c'est le meilleur examen quand on veut aller plus loin dans les investigations, c'est le scanner. Et si vous voulez, voilà une coupe scanner, et voilà ce à quoi ça correspond. Vous avez donc l'anévrisme, la dilatation de l'aorte, un petit chenal circulant par lequel passe le sang, hein, et un thrombus. Alors le thrombus n'assure aucune solidité, hein. Il a la résistance de l'eau. Hein. C'est-à-dire que quand ils seront l'anévrisme, ben, ils seront malgré le thrombus. Pas parce que vous avez un thrombus que c'est résistant, mais ça explique, si vous voulez, cette morphologie qu'on a sur le scanner. Diapo. Donc je répète, une simple échographie abdominale, ce qui est quand même extrêmement important. Parce que si vous ne faites pas ça, diapo, eh bien vous avez une rupture. Et la rupture, elle est mortelle dans 80% des cas. Vous comprenez très bien que quand l'aorte explose, ça se passe extrêmement mal. Diapo. Alors, la rupture est proportionnelle au diamètre de l'aorte. Normalement, une aorte d'un homme fait 18 à 20 mm. Et vous voyez que quand ça atteint 5 cm de diamètre, eh bien, on a un risque de rupture à un an de 20%, ce qui est quand même beaucoup, avec une mortalité, évidemment, de 80%. Diapositive. Alors voilà un anévrisme qui était connu, hein, et qui est en train de se rompre avec une issue de sang dans le muscle qui se trouve près du rachis, le psoas. Hein. Et ça, c'est un moment un peu privilégié, si je puis dire. À ce moment-là, les gens ont en général mal au ventre, font un petit malaise et ont mal au dos. Hein. Quelquefois, c'est diagnostiqué comme crise de colique néphrétique. Donc il faut se méfier quand on a 60-65 ans, des facteurs de risque athéromateux, quand on fume, etc., hypertendu. Quand on a mal au dos et qu'on n'a jamais eu mal au dos avant, que c'est la première fois, les crises de colique néphrétique qui surviennent tard, c'est quand même assez rare. Donc il faut se méfier de ce... Parce que ça, c'est un peu privilégié, parce que pendant un certain temps, le sang que vous voyez ici va s'accumuler et va rester localisé, ça va faire un hématome, hein, comme un gros bleu, hein, dans le muscle. Mais après, ça va se rompre à l'extérieur. Et là, c'est un peu tard. Diapo. Donc voici un autre malade qu'on avait reçu, parce que malheureusement on en reçoit pas mal, des anévrismes rompus. Hein. Voici un anévrisme qui est en train de se rompre dans le ventre avec un énorme hématome rétropéritonéal. Et vous comprenez tout de suite intuitivement, quand vous verrez tout à l'heure la difficulté de la chirurgie, qui est bien réglée, que le risque chirurgical est multiplié par 100 hein, quand on a un anévrisme rompu. Donc vous voyez ici l'issue de 100. Alors, diapo. Alors, risque de rupture à partir de 5 cm de diamètre. Il est certain que quand il fait moins de 5 cm de diamètre, le risque de rupture est très faible. Donc on n'opère pas les gens, on les surveille. On les surveille par scanner, parce que c'est le plus précis. Et quand ils atteignent 5 cm, ben, on les opère à ce moment-là. Et on les opère d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'ils sont évolutifs. Et évolutifs, ça veut dire qu'ils prennent plus d'un centimètre par an. Alors ils peuvent se rompre de façon perverse dans la veine cave inférieure. Donc là, il n'y a pas des hémorragies, mais il y a une grande insuffisance cardiaque brutale. Il y a un court-circuit qui se fait dans la veine cave. Ils peuvent aussi se rendre dans le tube digestif. Et là, ça se passe très très mal, en général, par une hémorragie digestive qui est foudroyante. Hein, diapo. Donc maintenant, on va passer à la deuxième présentation et la vue du médecin généraliste. Maintenant, vous savez ce que c'est que l'aorte, que vous savez ce que c'est qu'un anévrisme aortique, que vous savez qu'il y a un risque de rupture lié au diamètre. Comment ça se passe, en fait, dans les faits ? Au médecin généraliste, qui est le praticien que vous voyez en premier lieu, et quelle est sa façon de voir les choses. Donc je vais donner la parole au docteur Bernard Gavitte, qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir.
Merci. Ça marche ? Oui. Bonsoir. Donc je suis médecin généraliste à la ville de Poitou, à 15 km de Poitiers, comme tout le monde sait, et je suis par ailleurs responsable, coordinateur du département de médecine générale de la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers, c'est-à-dire que je suis responsable de la formation des futurs généralistes de la région. Donc, je vais parler après professeur Rico, ce qui est difficile. Je ne vais pas vous présenter des photos aussi dramatiques que celles qu'il vous a présentées, mais je vais essayer de vous expliquer la problématique de l'anévrisme de l'aorte abdominale en médecine générale. Et je suis désolé, mais on aura peut-être quelques recoupements par rapport à la présentation précédente, mais enfin, ce qui prouve qu'on a à peu près les mêmes problématiques les uns les autres, ce qui est une bonne chose. Alors, l'anévrisme aortique est une pathologie qui est relativement rare. Rare, elle est assez exceptionnelle, comme vous avez dit, M. Rico, avant 60 ans. Elle touche grosso modo 1-2% de la population et surtout, comme il l'a dit, les hommes qui sont au-dessus de 60 ans et les hommes qui sont fumeurs ou anciens fumeurs. Tout ça pour dire qu'en population générale, en clientèle de médecine générale, on a très peu d'anévrismes de l'aorte par clientèle. Ce qui ne veut pas dire que c'est un problème qui soit nul, mais nous ne sommes pas forcément, nous en tant que généralistes, très sensibilisés, et peut-être à tort, par ce problème. Ce qui a été dit aussi et qui est important, c'est qu'on a certainement dans notre clientèle beaucoup d'anévrismes qui s'ignorent, puisque c'est une pathologie qui est silencieuse. C'est-à-dire que les gens en sont porteurs, mais qu'ils n'en ont aucun signe. Et malheureusement, c'est souvent au moment où il y a une complication que les signes apparaissent, et c'est donc un diagnostic qui est pour nous relativement difficile en raison de la non-spécificité des signes de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Paradoxalement, cette symptomatologie apparaît lorsque la complication apparaît. Et la complication est souvent dramatique, rapide et dramatique, et ça conduit à un nombre de décès relativement important dans cette population, autour de 75%, 80% de la présentation précédente, en cas de rupture, finissent par un décès. Et grosso modo, il y a en France 2000 décès par an dus à des ruptures d'anévrisme de l'aorte abdominale. Alors par rapport à ce problème qui est peu fréquent en médecine générale, mais qui est dramatique dans ses complications, comment est-ce qu'on peut faire? On vous a dit, il faut dépister. Dépister, c'est quoi? Dépister, c'est rechercher une maladie alors qu'elle n'a aucun signe. C'est ça le dépistage. Le dépistage le plus connu actuellement, c'est le dépistage du cancer du sein. C'est faire des mammographies à des femmes qui n'ont aucun symptôme, mais qui sont porteuses d'un cancer du sein. Là, dépister un anévrisme de l'aorte abdominale, pardon, ça serait retrouver un anévrisme alors que les gens n'ont aucun symptôme. Alors, faut-il les dépister? C'est la vraie question. Faut-il les dépister comment ? Faut-il les dépister chez qui ? Et faut-il les dépister pour quel bénéfice ? Car un dépistage sans bénéfice n'a aucun intérêt. Comme il nous avait été dit, le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale repose sur un examen relativement simple, qui est l'échographie. L'échographie est un examen qu'on peut considérer comme peu coûteux. C'est un examen qui est relativement informatif, qui est simple, et qui est surtout indolore, et qui est non dangereux pour le patient. C'est quand même extrêmement important d'avoir un tel examen pour faire un dépistage. Chez qui ? Doit-on le faire à tout le monde ? Doit-on le faire à des populations plus ciblées ? A priori, d'après ce que nous a dit M. Rico, il serait intéressant de le faire, premièrement, à des hommes, deuxièmement, à des hommes qui ont au moins 60 ans, ou entre 50 et 60 ans, et des gens qui ont été fumeurs. Donc, est-ce qu'il faut faire un dépistage de masse, un dépistage individuel ? C'est une vraie question. Pour quel bénéfice ? Pour quel bénéfice est-ce que la collectivité a intérêt, financier, j'entends, l'argent, votre argent, l'argent de la sécurité sociale, à faire un tel dépistage ? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine d'engager de l'argent pour finalement, pour au final, comme on dit vulgairement, avoir une rentabilité relativement peu importante en termes économiques. Nous, en tant que médecins, on raisonne plutôt par rapport à l'intérêt du patient. Quel est l'intérêt individuel de faire un dépistage ? Quel est le risque de laisser un anévrisme se développer ? Quel est le risque d'intervenir ? Parce que la chirurgie n'a pas non plus que des effets positifs et peut avoir des effets négatifs. Et au final, quelle est l'importance, le différentiel entre laisser un anévrisme se développer et intervenir en tant qu'après un dépistage ? Ce sont des vraies questions qu'il faut se poser en tant que citoyen et en tant que médecin. Donc au mieux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faut faire un dépistage sélectif, individuel. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir prendre une population complète, mais comme on l'a dit tout à l'heure, faire un dépistage sur des hommes plutôt de 60 ans, plutôt fumeurs. Mais il existe aussi un dépistage qu'on peut appeler opportuniste. Et ça vous a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que souvent, on trouve des anévrismes dans ce qu'on appelle les bilans de maladies vasculaires. C'est-à-dire des gens qui ont fait soit un infarctus, qui font une angine de poitrine, une insuffisance coronaire, qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle la congestion cérébrale, ou qui ont des artérites des membres inférieurs, c'est-à-dire une mauvaise circulation au niveau des artères des jambes. Et encore plus opportuniste, on trouve des anévrismes lorsque les gens présentent des douleurs souvent abdominales, voire des douleurs lombaires, voire des douleurs du bas-ventre, et on ne sait pas d'où ça vient, et de manière incidente, on trouve un anévrisme de l'aorte abdominale. Voilà comment se situe en médecine générale le dépistage actuellement de les anévrismes aortiques. Si on peut se poser quelques questions sur le problème du dépistage, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions sur le problème de la prévention. Prévention, c'est éviter. Éviter, par exemple, empêcher l'apparition d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Ce peut être aussi en minimiser les effets néfastes, c'est-à-dire que les gens sont porteurs, on les sait porteurs d'un anévrisme de l'aorte abdominale, et une intervention pour éviter que celui-ci ne progresse, pour éviter que celui-ci ne se complique. Et enfin, la prévention peut se poser un peu plus en aval, c'est-à-dire de diminuer les séquelles éventuelles qu'un accident d'un anévrisme aortique a pu provoquer. Et là, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Il faut qu'en médecine générale, on fasse de la prévention. D'autant plus que cette prévention, si vous voulez, est un peu correspond à de multiples problématiques et à de multiples enjeux au point de vue vasculaire. En effet, comment est-ce qu'on peut prévenir en médecine générale les anévrismes de l'aorte abdominale? Eh bien, c'est en contrôlant ce que l'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires modifiables. C'est-à-dire que des choses qu'on peut arriver à modifier dans le comportement des patients ou par une intervention thérapeutique du médecin pour limiter les risques d'accident vasculaire en général. C'est-à-dire le surpoids ou l'obésité qu'on peut contrôler grâce à un indice qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. Ce peut être le diabète qu'on traite avec l'objectif de diminuer la glycémie, certes, c'est-à-dire le sucre dans le sang, mais surtout ce qu'on appelle l'HbA1c glyqué. Et ça, vous avez vu de multiples relais dans la presse. Il faut absolument être inférieur à 7. C'est aussi diminuer le cholestérol, et en particulier ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. C'est aussi et surtout diminuer le tabagisme, et ça, c'est en pleine actualité. Et enfin, c'est contrôler la pression artérielle pour éviter qu'une hypertension artérielle ne se développe. Pour mémoire, je vous ai mis ici ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, pour lesquels vous, comme nous, ne pouvons rien, c'est-à-dire le sexe, l'âge, et si on a des antécédents soit personnels, soit familiaux, d'accidents cardiovasculaires. Donc en fait, la prévention des anévrismes de l'aorte abdominale sont essentiellement fléchés par rapport au contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires modifiables. Que peut-on faire c'était pour éviter l'apparition, autant que faire se peut, des anévrismes aortiques? Que peut-on faire lorsqu'il existe un anévrisme aortique? Eh bien, c'est, comme a dit M. Rico, c'est essentiellement surveiller de façon régulière par des échographies la taille et l'évolution de la taille des anévrismes aortiques. C'est aussi en étant drastique, en étant rigoureux par rapport aux facteurs de risque, et en particulier deux facteurs de risque, le tabac qu'il faut absolument arrêter et l'hypertension artérielle qu'il faut contrôler. Enfin, c'est éviter certaines complications, car au niveau d'un anévrisme, vous avez vu la taille des anévrismes, il y a ce qu'on appelle des turbulences qui peuvent provoquer des caillots, et c'est essentiellement en prescrivant des antiagrégants qu'on peut éviter les complications des anévrismes aortiques. Antiagrégants, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aspirine à petite dose, et ça veut dire certaines molécules comme le clopidogrel que certains peut-être d'entre vous prennent actuellement. Voilà, résumé, à mon avis, la place du médecin généraliste dans la problématique de l'anévrisme aortique.
Je te remercie beaucoup parce que c'est tout à fait complémentaire de ce qu'on avait, de ce que j'avais commencé à annoncer. Je veux faire une remarque quand même qui est intéressante, c'est le coût. Parce que, évidemment, les dépistages ont été faits dans des pays occidentaux, le coût économique a évidemment été le moteur de plusieurs de ces études scientifiques parues dans le Lancet. Et le dépistage des anévrismes aortiques est hautement rentable, puisqu'on admet que le coût du dépistage est de 10 000 euros par vie sauvée. Donc il faut savoir simplement si la vie d'un homme de 60 ans, ça vaut 10 000 euros ou pas, c'est tout, quoi. Après, c'est un problème de politique. Mais si vous voulez, ça a été chiffré. Et les Anglais, qui sont très stricts là-dessus, ont admis que c'était très, très rentable, puisque dépistage du cancer du sein, c'est 25 000 à 35 000 euros. Hein. Donc ça coûte quand même 3 fois moins cher. Alors, on va continuer et on va, dans une deuxième partie maintenant, vous parler de ce qu'on fait pour les traiter, parce que ça peut être intéressant. Et puis, enfin, on vous montrera une certaine innovation technologique qu'on fait, nous, et qu'on fait en Europe dans quelques centres, très peu. Alors, la première chose, c'est le traitement chirurgical,
qui consiste à exclure l'anévrisme, à rétablir la circulation. Et ce traitement a été mis au point par un chirurgien américain qui s'appelle toujours Michael Dobakie, qui vit à Houston, qui a été formé en partie en France, puis comme il n'était pas français, il a immigré aux États-Unis où il a développé une carrière absolument extraordinaire. Il a 99 ans et il est absolument extraordinaire. Il est remarquable de noter que là, il tient un cœur artificiel qu'il a aussi mis au point. C'est celui aussi qui a décrit la chirurgie carotidienne. C'est vraiment un grand pionnier. Et monsieur Dobakie a été opéré il y a un an et demi d'un anévrisme de l'aorte thoracique. Et ça vaut le coup de raconter un peu ce qui s'est passé, puisque quand il est arrivé, donc il avait 99 ans, il est arrivé à l'hôpital et il n'était pas très bien, évidemment. Et il croyait qu'il allait mourir. Et puis finalement, c'était un anévrisme qui a évolué en quelques heures, qui a laissé le temps de la réflexion à tout le monde. Il a été contre-indiqué par les anesthésistes de son hôpital, qui trouvaient qu'il était trop vieux, qu'il ne passerait pas le cap, qu'il ne fallait rien faire. Et puis, donc, les chirurgiens sont réunis parce qu'ils étaient quand même inquiets. Et puis finalement, dans cette réunion de service, qui était un peu houleuse, je pense, la femme de Michael Dobakie est arrivée, il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Il faut l'opérer, c'est tout. » Et c'est le chef de clinique qui était de garde qui l'a opéré et qui l'a sorti, parce que ce sont des gens qui savent travailler. Donc il a quand même eu une convalescence assez longue. Les deux derniers mois, il les a passés dans une chaise à roulettes parce qu'il n'était pas encore assez fort pour marcher dans tous les hôpitaux, dans tous les couloirs de l'hôpital de Houston à casser les pieds aux gens. Et finalement, il a pu rentrer chez lui. C'est à lui qu'on doit en fait la description du traitement chirurgical de ces anévrismes. Alors, le principe est extrêmement simple. Vas-y. On fait ça par une incision médiane. Et on va, je passe sur les détails, on va rencontrer donc l'anévrisme qui se trouve dans l'abdomen, diapositive. Ensuite, cet anévrisme, dans 90% des cas, même plus, il s'arrête juste sous les artères rénales, qu'on voit ici. Donc vous avez ce qu'on appelle un collet, c'est la limite, si vous voulez, la limite supérieure de cet anévrisme. Ensuite, on clampe, on interrompt la circulation dans l'aorte qui contient l'anévrisme. On enlève le thrombus, le caillot que vous avez vu sur le scanner qui se trouve à l'intérieur, oui. Et puis, on a l'artère lombaire qui se trouve au fond. On les ferme par en dedans. Et c'est là l'astuce de M. Dobakie, c'est d'avoir... on n'enlève pas l'anévrisme. Hein. On le traite par l'intérieur. Parce que comme l'anévrisme, il colle à tout, à la veine cave, etc., si on l'enlève, ça devient une opération infernale. Mais on n'a pas besoin de l'enlever. On ferme par en dedans. Et on coud, juste à la limite entre l'aorte saine et puis la dilatation, cette prothèse en Dacron. On vous a apporté un exemplaire. On vous montrera tout à l'heure. On va circuler. Qui est un polyester, hein, et on coud, hein, c'est fait main, cette prothèse, diapositive. Ensuite, on déclampe, on teste l'anastomose supérieure. On fait très attention parce que si jamais vous avez une fuite en arrière et vous avez déjà fait l'anastomose inférieure, vous êtes très très mal pour corriger. Donc on teste en haut, on regarde, quand on a un petit trou en arrière, on remet un point, et puis après on fait l'anastomose en bas, on déclampe, et puis ensuite on ferme la coque de l'anévrisme autour de la prothèse pour la séparer du tube digestif. Diapositive. Alors, là, chez quelques malades, il y a une artère mésentérique inférieure qui est perméable, qui est réimplantée. Et puis, chez quelques malades, l'anévrisme s'étend beaucoup plus sur les iliaques. Et à ce moment-là, on fait une prothèse qui est bifurquée. C'est ce qu'on appelle une culotte. Hein, ça passe, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Voilà. Quelquefois aussi, il y a une maladie oblitérante qui s'associe à la maladie anévrismale, mais c'est la même maladie, c'est l'athérome, hein, les deux. Et vous voyez, on est obligé de faire des pontages assez compliqués pour à la fois exclure l'anévrisme et revasculariser les membres inférieurs. Bon, ça, c'est la vie de tous les jours, hein, diapositive. Quelquefois, on est obligé d'aller beaucoup plus haut et de faire une voie rétropéritonéale, peu importe. Ça, c'est la chirurgie. Diapo. Alors, comme l'a dit le docteur Yavid, c'est... There is no free lunch. Hein. Quand on fait une intervention aussi importante que ça, on a des complications et on a à peu près 4% de mortalité opératoire à froid, hein, ce qui correspond à peu près à ce qu'on a dans les pontages coronaires. C'est la même population de malades. Les décès ne sont pas dus à la technique, à un défaut de technique sur l'anévrisme en général, mais le 90% des décès sont dus à des complications coronaires qui surviennent après la chirurgie. D'où l'importance du bilan et d'où l'importance de la correction des facteurs de risque. Quelquefois, c'est malade quand on diagnostique l'anévrisme, quand il n'est pas compliqué, on a le temps. Il y a un bilan cardiaque complet qui est fait et à ce moment-là, quelquefois, les malades ont d'abord un stent dans les coronaires ou un pontage coronaire avant qu'on fasse l'anévrisme. Ça, c'est extrêmement important pour baisser cette mortalité. Il y a une morbidité, c'est les complications respiratoires qui prolongent un peu l'hospitalisation mais qui n'entraînent pas le décès du malade. Complications respiratoires, Jérôme Coux vous dira un mot là-dessus parce qu'avec une technique qu'il a développée, on tend à diminuer les complications respiratoires. Et vous voyez qu'il n'y a pas de... Il y a vraiment une différence extrêmement importante entre le rompu et le non rompu, où d'un côté, vraiment, on a un taux de complication qui est tout à fait acceptable et de l'autre, tout à fait inacceptable. Diapo. Alors, une fois que les malades sont opérés, comment ils vont? Parce que ça aussi, c'est important. Est-ce que vraiment on leur a rendu service? Eh bien, ils vont bien. Hein. Ils reprennent au bout d'un à deux mois leur activité normale. Comme ils ont une cicatrice, ils ont quelquefois quelques petites douleurs au début, puis ça se calme. Et ils ont une surveillance qui est relativement simple en dehors de la surveillance des facteurs de risque qu'ils peuvent avoir par ailleurs. C'est un échodoppler à un mois qui est systématiquement fait, puis un angioscanner. On fait un scanner tous les 5 ans. Et puis évidemment, comme l'a dit le Dr Gavi, le traitement des facteurs de risque cardiovasculaires, évidemment. Mais si vous voulez, c'est pas, vous n'êtes pas diminué. Vous reprenez. J'ai même des gens qui ont repris la course. Il y a des gens jeunes qui ont ça, c'est rare, mais ça arrive, hein, qui a repris le marathon, si vous voulez. Donc même des efforts extrêmement soutenus, on peut les faire. Hein. Diapo. Alors, là-dessus arrive une deuxième technique que nous, on a commencé à expérimenter au CHU dans le cadre d'une loi Hurier, donc études expérimentales, qui sont les endoprothèses. Les endoprothèses représentent incontestablement une innovation technologique qui s'adresse soit aux anévrismes de leur thoracique, mais on va faire simple, on ne va pas trop en parler, mais je vais vous montrer une vidéo, soit aux anévrismes de leur aorte abdominale. Les résultats de ces endoprothèses qu'on met vraiment que depuis une dizaine d'années ne sont pas connus à long terme, alors que la chirurgie donne de très bons résultats à 20-30 ans. Si vous voulez. Bon, c'est comme toute innovation, il faut attendre pour avoir du recul. Diapo. Vas-y, clique encore. Voilà. Donc voici, je vais vous montrer un film. Alors c'est Disney. Hein. Donc c'est à propos d'un année de la mise de ce traitement endovasculaire d'un anévrisme de l'aorte thoracique. Alors voici l'anévrisme, vous l'avez reconnu, une dilatation de l'aorte. Vous avez ici la crosse de l'aorte, vous êtes dans l'aorte thoracique, il y a du thrombus, et on va monter par voie fémorale, donc on fait simplement un abord de la fémorale, il n'y a pas de grande cicatrice, et on ouvre une endoprothèse qui va couvrir l'anévrisme. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà en plus long. Hein, et il est certain que vous excluez l'anévrisme, et vous faites c'est le même principe que traitement chirurgical, à part qu'il n'y a pas d'incision. Et voici donc ce que ça donne par en dedans, si vous voulez. Vous avez l'endoprothèse qui couvre complètement l'aorte, qui exclut l'anévrisme et qui permet de revasculariser les membres inférieurs, enfin l'aorte abdominale, et en même temps d'éviter la rupture. Alors ensuite, on passe dans cette endoprothèse un ballon qui est à trois petits ballons, en fait, qu'on tourne pour appliquer la paroi de l'endoprothèse sur l'aorte au-dessus et au-dessous pour éviter qu'il y ait des fuites qui passent, des endofuites en haut et en bas. Donc ça, c'est très très chouette. Évidemment, c'est très intéressant, surtout pour les anévrismes de l'aorte thoracique, parce que ça permet de... Vas-y, passe. Voilà. Alors voici en pratique, pour les anévrismes de l'aorte abdominale, pas d'incision, deux cicatrices quand même, deux abords, parce que les cathéters sont quand même gros pour passer dans les artères fémorales. La prothèse est là-dedans, hein, diapo. Et donc, on va ouvrir la prothèse. Là, c'est abdominal, donc sous les artères rénales. Vous voyez les stents qui s'ouvrent, diapo. Ensuite, on va ouvrir l'autre jambage parce que c'est bifurqué pour les endoprothèses de l'aorte abdominale, diapo. Et vous allez vous retrouver avec une endoprothèse qui exclut complètement votre anévrisme. Et c'est quand même extrêmement satisfaisant. Diapo. Alors, le problème, c'est que c'est le début. Comme vous avez vu sur les dates, sur les angiographies, nous, on a été un des premiers en France à faire ça en 1999. Maintenant, on est en 2008. Mais c'est quand même jeune. Alors, la première chose à dire, c'est un peu comme l'aviation. Au début, il y avait des avions en papier puis il faisait un bond dans un champ, puis il s'arrêtait ou il s'écrasait. Maintenant, on est avec des Boeing de 300 tonnes et ça marche. Donc, on n'est pas encore au stade du Boeing, mais on n'est plus au stade de l'avion en papier. Néanmoins, si vous voulez, c'est encore de l'innovation technologique. Ça, c'est la première chose. Donc, le matériel, vous verrez, je vais vous montrer, ce n'est pas tout à fait au point. La deuxième chose, c'est qu'il y a des critères anatomiques qui sont extrêmement précis. Je vous explique tout ça, pas pour faire de vous des médecins ou des chirurgiens, mais pour que vous compreniez pourquoi, dans quelques cas, on ne peut pas le faire. Si vous avez un anévrisme qui est comme ça, avec un collet là suffisamment long sous les artères rénales et des iliaques qui sont bien, eh bien, on va pouvoir vous mettre une endoprothèse, théoriquement, parce qu'on a de quoi fixer l'endoprothèse au-dessus de façon sûre. Il faut au moins 2 cm hein, d'aorte qui ne soit pas anévrismale. On le met en bas et on peut espérer que ça marche. Par contre, si vous avez un anévrisme comme ça, qui est très étendu, un gros anévrisme qui s'arrête au ras des artères rénales, c'est impossible de mettre une endoprothèse parce qu'elle ne va pas se fixer. Donc, il y a des critères anatomiques extrêmement précis que nous, on analyse par une étude sur du scanner. C'est pour ça qu'on vous fait maintenant les scanners avec des CD-ROM. Et on a des programmes qui analysent le scanner tranche par tranche sur CD-ROM pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire. Diapo. Alors ensuite, il y a les endofuites. Alors, c'est la première partie de l'aviation que je vous décrivais tout à l'heure. Alors, ça peut fuir là-haut autour de la fixation proximale. Ça peut fuir à l'intérieur de l'endoprothèse qui se fragilise. Ça peut fuir dans les zones intermédiaires ici. Et ça peut fuir aussi par les artères lombaires qui refluent, puisque vous avez vu que dans la chirurgie, on les ferme par en dedans. Alors tout ça fait, et puis par en bas aussi, donc ça fait quand même beaucoup de possibilités de fuites. Il est évident que si vous avez des fuites, ben vous allez avoir un sac anévrismal qui va être sous pression, et donc vous avez un risque de rupture, malgré l'endoprothèse. Diapo. Alors voici ce genre de catastrophe, hein. Voici une endoprothèse, et puis vous voyez que vous opacifiez l'anévrisme, ce qui n'est pas un bon signe, hein. Et ce malade avait une rupture de l'endoprothèse dans le sac. Il avait une douleur abdominale. Il était opéré. On a dû tout lui enlever et lui faire une chirurgie classique. Diapo. Alors là, c'est une rupture complète. L'endoprothèse s'est cassée en deux avec une hémorragie, une rupture. Hein. Lui, il a moins une chance. Diapo. Alors, donc, il y a quand même des aléas. Il faut savoir que c'est expérimental un petit peu encore. Il y a eu des études où on a tiré au sort les malades qui viennent toujours du même pays qui est la Grande-Bretagne, où la médecine est quand même beaucoup mieux structurée en point de vue scientifique. Et on a prouvé sur un grand nombre de patients que l'endoprothèse, la mise en place de l'endoprothèse, diminuait le risque opératoire, le risque de mortalité immédiat à 30 jours, qui passe de 4% pour la chirurgie, je vous l'ai dit, à 2,5%. Donc on diminue un petit peu le risque de rupture. Par contre, à 2 ans, c'est pareil. Ce qui veut dire que les malades qui ont échappé à la mort après la chirurgie et qui avaient des coupes-factures de risque, de toute façon, ils sont morts un peu plus tard. Mais ils ont gagné quand même un peu de temps. Bon. Mais à 2 ans, si vous voulez, c'est pareil. Et puis, ce qui est important, c'est la dernière ligne, c'est qu'il y a quand même 32% de réintervention quand vous faites une endoprothèse par rapport à la chirurgie, il n'y a que 8%. Et en général, c'est des réinterventions pour des éventrations, mais pas pour des complications vasculaire, alors que là, c'est on remet une endoprothèse, on convertit, on remet un stent, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, diapositive, quand on met une endoprothèse. Et c'est ce qui a conduit l'Agence française de sécurité sanitaire, hein, la LAFSAPS, à faire des recommandations très, très strictes sur la surveillance de ces malades qui ont une endoprothèse, scanner à 6 mois et 1 an, échographie scanner donc chaque année et radio de l'abdomen, et ça indéfiniment, car on ne sait toujours pas si l'endoprothèse tiendra le choc. Hein, je vous rappelle que quand même, vous avez un cœur qui bat 60 fois au moins par minute, vous avez une onde, une systole à chaque fois, et vous avez une endoprothèse qui est là, si vous voulez, avec un stress mécanique extrêmement important. Donc il faut savoir que si vous mettez une endoprothèse à quelqu'un de 50 ans, s'il a une espérance de vie de 30 ans, il va avoir au moins 30 scanners au cours de la surveillance, qui correspond à une dose d'irradiation qui n'est pas négligeable. Hein. Donc c'est pour ça qu'on restreint les endoprothèses aux malades âgés, aux malades à risque, dont l'espérance de vie n'est pas extraordinaire, parce que à 50 ans, qu'on n'a pas trop de facteurs de risque, il vaut mieux avoir une chirurgie conventionnelle. Diapo. Alors, ces réflexions sont sur l'innovation, je pense qu'elles sont importantes à partager. Parce que nous, on a eu toutes ces réflexions, si vous voulez,
quand on voit le film de Disneyland là, sur l'endoprothèse, on est prêt à l'acheter, c'est mieux, etc. Bon. Ceci dit, c'est quand même une certaine utopie parce que le bien-être immédiat, le moins de complications est devenu, donc, à mon avis, une utopie des sociétés modernes. Et on a un environnement technologique, commercial et médiatique qui incontestablement s'accommode d'une certaine psychologie des objectifs à court terme. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et évidemment, le progrès chirurgical, le progrès médical en général, hein, n'échappe pas à cette mutation. Donc, à mon avis, les bénéfices économiques humains sont vraiment incertains. Donc, il faut laisser aux gens qui connaissent ces techniques le choix de choisir la meilleure technique adaptée à votre cas. Hein. Et je dis ça parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir en disant, voilà, je veux une endoprothèse. Ben non, vous aurez une endoprothèse si on peut vous mettre une endoprothèse, s'il faut vous mettre une endoprothèse, mais pas je veux une endoprothèse. Diapo. Alors, donc... En 2008, on met ces endoprothèses, les sujets jeunes en bon état général, c'est la chirurgie. 50, 60 ans, maintenant on dispense de 65 ans même, c'est pas très vieux. Hein. Sujets âgés, fatigués, avec des facteurs de risque importants au cours du bilan, on est plus en faveur d'une endoprothèse. Anévrisme de l'aorte thoracique, on met une endoprothèse parce que là, la chirurgie a un taux de complications qui est extrêmement important. Et surtout, comme je vous l'ai dit, pour améliorer le pronostic, il faut vraiment... penser au dépistage. Oui. Alors, je terminerai, on va donner la parole à Jérôme qui va présenter un nouvel abord chirurgical qui est très très original, mais je voulais quand même terminer au nom du service, parce que moi je ne représente qu'une équipe, hein, remercier les malades qui nous ont fait confiance depuis quelques années, parce que quand on est opéré d'un aneurysme d'aorte abdominale, on a un stress, on a une angoisse. Et si vous voulez, la confiance qu'ils nous ont accordée nous a touchés. Remercier évidemment les médecins, mais ça on ne va pas se remercier entre nous, mais tout le personnel, les infirmières, les penseuses et les secrétaires, sans lesquels, bon, c'est pas possible. Hein. Les familles qui ont supporté les absences, le stress, notre caractère de chien, hein, c'est vrai, hein. Non ?
Je vais parler pour vous, je crois.
Oui, d'accord. Bon. Et puis évidemment, l'équipe ici, l'équipe de communication du CHU qui est représentée ici, et le pôle InfoSanté pour nous avoir donné la possibilité de faire ces présentations. Donc maintenant, je vais passer, et puis après, on aura une discussion plus soutenue, avec beaucoup de questions, j'espère, parce que c'est destiné à ça, et une présentation très très courte sur une particularité de technique qui me semble remarquable. Jérôme Co est chirurgien des hôpitaux, travaille dans le service. Il est venu de Toulouse il y a 3 ans, avec déjà une technique qu'il avait développée seul. Et on lui a donné, j'espère, enfin ça n'a pas été simple, mais on lui a donné la possibilité de développer cette technique à Poitiers et de continuer à le développer, à la fois sur le plan des malades, mais aussi sur le plan de la recherche, puisqu'il anime un laboratoire de recherche chirurgicale qui est tourné, entre autres, sur ce projet. Donc, Jérôme, dis-nous ce que tu fais.
Bien, donc merci de nous donner la parole. Je vais donc parler d'une nouvelle technique. Avant de vous parler de nouvelle technique, donc moi je viens de Toulouse, à Toulouse vous êtes tous toujours très fiers, et à Poitiers vous pouvez être également fiers, puisque au sein du service de M. Rico, on a pu développer de nouvelles techniques. C'est pour ça qu'il faut être très critique quand on développe de nouvelles techniques, mais en même temps ouvert. Et donc à Poitiers, vous avez la chance d'avoir un service de pointe, puisque M. Rico s'occupe des hautes instances de la chirurgie vasculaire en France, dont il va être le président, et dans les instances européennes et mondiales. Donc c'est quand même à souligner. Donc au sein du service, donc des diapositives s'il vous plaît, développer une nouvelle technique qui répond en fin de compte aux interrogations que suscitaient les dernières diapositives. Mettre une endoprothèse, on n'ouvre pas le ventre, on a moins de complications immédiates. Le problème, c'est qu'on n'a pas la qualité de la restauration qu'on effectue par chirurgie traditionnelle. En chirurgie traditionnelle, en ouvrant, on a une morbidité, des complications liées à cette ouverture de l'abdomen. Donc l'idée était de faire la même restauration, mais sans ouvrir, en faisant juste des petits orifices dans lesquels on introduit des trocars, comme on va vous montrer tout à l'heure. Et c'est à l'aide d'une caméra et des instruments un peu plus longs qu'on réalise la restauration et la suture. Diapositive. Donc ici, les regards sont tournés non plus sur le malade, ce qui est un peu étonnant, mais sur les caméras qui retransmettent exactement l'image à l'intérieur du patient. En fin de compte, techniquement, ça c'est difficile car on opère avec des baguettes chinoises, ce qui n'est déjà pas facile, mais en plus on opère en deux dimensions, c'est-à-dire on opère la troisième dimension et l'usage tactile au niveau de la main. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Diapositive. Voici les instruments spécifiques, qui sont des instruments dont la fonctionnalité est la même qu'en chirurgie classique, mais qui sont beaucoup plus longs, avec des petits clans ici et des trocars qu'on vous montrera, qui permettent d'avoir un accès direct dans le ventre, qui font 1 cm, donc ces petites ouvertures, qui ne sont pas traumatisantes puisqu'on passe entre les muscles. Diapositive. Donc ici, c'est la suture qu'on réalise avec le même fil, la même prothèse, sur une aorte qui est clampée avec les mêmes choses. Diapositive. Donc, l'avènement du robot dont on parle beaucoup dans la presse, est-ce que le robot est indispensable ? Pour l'instant, tels les joueurs d'échecs, on est encore meilleur que le robot. Enfin, le robot n'est pas encore assez bon. Donc voilà l'entraînement. On s'entraîne sur un simulateur. En fin de compte, il y a 2 prothèses qu'on doit s'entraîner à coudre avec ces instruments. Voilà. Donc il faut s'exercer avant de pouvoir réaliser ces sutures. L'entraînement est tout de même au départ un peu fastidieux. Les techniques de Célio étaient bien connues dans le domaine de chirurgie digestive, de l'urologie, et elles se développent maintenant que depuis 7 ans en chirurgie vasculaire. Voilà, donc ça, c'est différentes techniques qu'on montre pour l'enseignement de la chirurgie, de ce type de chirurgie. Diapositive. Donc ensuite, bien sûr, on réalise l'enseignement en créant des simulateurs virtuels qui permettent, tel le pilote d'avion, de s'entraîner sans forcément écraser le fameux avion, ce qui coûterait cher, surtout que l'avion, dans ces cas-là, ce serait vous. Diapositive. Donc voilà, on remplace la cicatrice médiane, abdominale, par des petits trocars, voilà, pour faire le même pontage. Diapositive. Alors, l'intérêt des bénéfices, c'est diminuer les douleurs post-opératoires. Mais à l'heure actuelle, bon, on peut dire qu'avec des morphiniques, ben, elles ne sont quand même pas énormes. On a quand même, on observe moins de complications respiratoires du fait que lorsqu'on respire, c'est l'abdomen qui nous permet, la musculature abdominale qui nous permet de bien respirer. Et après une chirurgie abdominale un peu lourde, on respire moins bien, donc les poumons gonflent moins, on peut avoir des complications liées à ce niveau-là. Le transit est repris plus rapidement. On espère une réduction de la durée d'hospitalisation qu'on observe maintenant dans nos séries. Initialement non, parce qu'on gardait les patients pour les surveiller comme avant. Et surtout, bon, bien sûr, on élimine le risque d'éventration abdominale puisqu'on n'ouvre pas l'abdomen. Diapositive. Donc, c'est une technique de choix qu'on tient à développer à plusieurs conditions. La première, qui est de persévérer dans les évolutions technologiques et techniques qui permettent de faciliter les sutures et nos techniques, mais surtout d'une évaluation préopératoire du patient. En effet, c'est hyper important de connaître exactement l'état, à la fois cardiaque, mais de la paroi artérielle, de sa nature même, avant de se lancer dans ce type de chirurgie. Par exemple, on ne fait pas de stéloscopie chez les patients coronariens ou à risque qui n'ont pas été explorés ou traités en premier lieu des coronaires. C'est très important parce qu'on s'est rendu compte, on savait depuis le début, que le fait de gonfler du gaz dans le ventre et de faire ce type de chirurgie pouvait majorer les complications respiratoires, cardiaques. Pardon. Par contre, si on les traite avant, le patient revient à un état de risque comme pour une chirurgie classique. Diapositive. Donc, le bénéfice maximal de la paroscopie, c'est les patients qui ont une faible comorbidité. Surtout des patients obèses, puisqu'on évite, en ouvrant pas la paroi abdominale, plein de complications liées à l'obésité même. Et les patients qui sont insuffisants respiratoires, bien sûr, s'en portent bien mieux. Diapositive. En conclusion, parce qu'on était un peu long, en fin de compte, chaque patient doit avoir la meilleure technique, mais c'est la meilleure technique pour chaque patient, c'est celle qui lui correspond le mieux. Donc, en gros, il faut nous laisser le choix. Vous avez un examen, un bilan complet, que ce soit cardiaque, respiratoire, abdominal. Et au terme de ça, on connaît à la fois votre statut général, votre morphologie aortique, qui nous permet de faire le choix le plus approprié, qui sera entre la chirurgie endovasculaire, comme vous avez vu, qu'on réserve à certains patients, ou alors de la chirurgie conventionnelle, sur la morphologie de votre anévrisme, ou de la chirurgie stéloscopique. Diapositive. Maintenant, vous avez la chance, pour attiser votre curiosité, je vais vous faire passer dans le public à la fois des instruments et le matériel qu'on utilise. Il n'y a pas tout, hein, parce que voilà, on n'a pas pris les... C'est pas contagieux. Ils ont pas servi. Hein.
Si vous en perdez en route.
Les trocars, on met dans le vent, les petits, on
des petits trocars, des plus gros trocars. Vous allez voir, c'est des tuyaux avec une valve, puisqu'on insuffle l'abdomen avec du gaz. Et donc, on met les instruments à ce niveau-là. Je vous le fais passer aussi. Ensuite, monsieur le professeur, que vous avez parlé des prothèses classiques.
Une prothèse classique, hein, qu'on recoupe comme on veut. Hein.
D'ailleurs, un stent aussi.
Bon, il y a une forme qui est de base. Alors, on choisit le diamètre. Vous avez du 14, du 16, du 20, etc. En fonction du diamètre de la horte. Et vous coupez la longueur que vous voulez et vous cousez. Hein. Alors, celle-là est un peu brune parce qu'elle est imprégnée d'argent, qui est un antimicrobien. Donc, vous la passez. Bon, ça, si on avait mis ça au pharaon, on aurait trouvé ça intègre dans leur momie. Hein. Ça,
et c'est gros, on n'en est pas.
Oui, alors, là, il y a une endoprothèse. Alors, elle est toute petite parce qu'il y a des petites, des grosses, etc.
C'est pas un pétard.
Et vous verrez, elle a une structure métallique à l'intérieur, hein, qui la maintient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des structures en nitinol. Le nitinol est un métal qui, à 37 degrés, se dilate. C'est-à-dire que là, il n'est pas 37 degrés, donc il est inerte. Mais quand vous le mettez dans le sang circulant, si vous voulez, il se dilate. Donc, il exerce en permanence une force sur les parois. Et donc, il adhère aux parois, il se fixe sur les parois. Ça, c'est un stint. Alors, le prix d'une prothèse là, qui circule, que vous avez, là, c'est à peu près 600 à 700 euros. Le prix d'une endoprothèse pour une chirurgie aortique, donc qu'on a vu tout à l'heure, c'est de l'ordre de 4000 à 5000 euros en France, où il y a eu un nivellement des prix, alors que dans d'autres pays, c'est multiplié par 2 ou 3. Mais après, c'est du problème de marketing. Mais si vous voulez, voilà. Donc vous verrez, c'est inclus dans la prothèse. Il y a quand même une technologie qui est dit différente entre les deux.
Merci. Je crois que c'est la première fois qu'on a l'occasion de voir en vrai. Ouais, on pourra le faire passer. Et même les instruments. On va les laisser circuler dans le... Est-ce que vous voulez voir, peut-être ? Je vous fais passer derrière. Et à Poitiers, combien de personnes ont été opérées selon votre nouvelle... Oui, en tout, 986, selon votre technique innovante.
Non, à l'actuel, on a 120 personnes opérées sous célioscopie, mais pas que pour des anévrismes, puis aussi dans l'artère, on peut l'opérer si elle est bouchée. Donc il y a les deux techniques, et puis bon, il y a d'autres indications.
Et la part pour les endoprothèses aussi, monsieur Rico ?
Oui, alors là, si vous voulez, il y a un problème qui est... D'abord, comme vous le savez, on ne met pas d'endoprothèse à tout le monde, on est très très sélectif sur les indications. Deuxièmement, il y a un problème économique, vous savez que... problème économique pas partout, hein. Et donc une endoprothèse coûte cher, donc quand on a le droit à un certain nombre d'endoprothèses par mois, par an, et quand on a dépassé le quota, ben on peut plus en mettre. Donc si vous voulez, on fait attention à cette utilisation des endoprothèses. Alors maintenant, ça se libéralise un peu, parce que c'est passé dans le cas du remboursement, ce n'est plus considéré comme une innovation. Donc pour les endoprothèses de l'aorte abdominale, c'est relativement ouvert. Et pour les endoprothèses de l'aorte thoracique, ça reste du domaine encore... Un peu plus délicat, où il faut demander des autorisations. Et on en met, pour nos amis, à peu près 40 à 50, hein, tout compris depuis qu'on le fait.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Parce que même si on regarde ces beaux outils... Et tout le monde est bien occupé. Hein. Ah, on va demander peut-être sur les...
Oui.
On va vous faire passer les micros. Il y en a un autre. Non, bah, est-ce que vous pouvez prendre celui-là, peut-être ? Il bouge un peu. On peut le prendre. Si vous avez la bougeotte et que vous restez debout.
Une question élémentaire. Est-ce que ces beaux produits, comme vous les avez nommés, sont de fabrication française ou étrangère ?
Ah,
est-ce que notre technologie est en accord ?
Alors, si vous voulez, toutes les prothèses qui sont faites là ont le marquage CE. Hein.
donc sont autorisées pour évidemment l'utilisation européenne. La majorité de ces endoprothèses ont été mises au point par les laboratoires américains. Elles sont fabriquées en général aux États-Unis ou en France, mais sur des brevets américains. Il n'y a pas une endoprothèse que ce soit dans, qui a été fabriquée par un organisme de recherche public, que ce soit en France ou aux États-Unis. Hein. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est la technologie médicale actuellement. Pour le médicament, c'est un peu différent, mais pas trop. Pour ce qui est de l'appareillage médical, nous, on dit ce qui nous semble intéressant. Et puis ensuite, il y a des gens qui voient le marché, parce que c'est une question de marché. Hein. L'anévrisme aortique, c'est vite apparu comme quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est fréquent, on en meurt, donc, et puis les interventions sont quand même assez lourdes. Donc l'idée de développer une endoprothèse. La première endoprothèse qui a été décrite a été décrite par un chirurgien qui était américain d'Amérique du Sud, et qui ensuite a émigré aux États-Unis où il a fini, il est encore en vie, il est professeur, et il a mis ça au point, il a eu un brevet sans doute, je pense. Ensuite, ce brevet est passé de main en main, et maintenant, vous avez différents types d'endoprothèses qui sont fabriquées toutes aux États-Unis ou en France, mais sur des licences américaines. Il n'y a aucune endoprothèse française ni européenne, hein, je ne pense pas.
Est-ce que le matériau, excusez-moi, je complète la question, est-ce que ce matériau existe également matériaux de fabrication. Est-ce que ce matériau existe dans d'autres formes de prothèses pour d'autres affections? Et oui. Est-ce qu'on a pu tester la durabilité du matériau?
Oui, alors si vous voulez, ça a été une... Moi, j'ai fait partie de la commission qui a autorisé, finalement, en France, l'utilisation des endoprothèses avec les critères restrictifs que je vous ai dit, c'est-à-dire essentiellement au départ chez les gens âgés, espérance de vie courte, etc. On a fait passer des critères, toutes ces prothèses ont eu une étude in vitro, in vivo, sur l'animal, sur banc d'essai, pour la durabilité. Et finalement, on a imposé aux fabricants que la durabilité de l'endoprothèse, si elle passe, vous verrez, elle est très proche de la prothèse qu'on coud, que le polyester ait la même solidité, si vous voulez, qu'une prothèse conventionnelle, dont on connaît la durabilité, puisqu'on a un recul de 20 à 30 ans. Et au départ, les choses n'étaient pas tout à fait comme ça, pour des raisons de miniaturisation, parce qu'il fallait passer par voie fémorale. Le matériel a été affiné, et là, il y a eu des problèmes. C'est les premières endoprothèses, hein, c'est l'avion en papier, hein, qui se déchirait tout simplement parce que la structure n'était pas suffisante. Et du fait de la législation française et de l'existence d'agences de sécurité, si vous voulez, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, sauf pendant un an et demi où il y a eu peut-être une valse hésitation, les malades ont été protégés parce que ne sont arrivés sur le marché et remboursés que des endoprothèses qui avaient passé tous les tests. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Hein. Vous pouvez toujours avoir une migration d'une endoprothèse. Mais disons que le matériel est correctement testé. Mais vous savez, une endoprothèse, c'est comme, vu le stress mécanique que ça a, c'est pas cousu comme les prothèses avec un polypropylène très très solidement. Hein, c'est appliqué. Il y a quand même un problème de durabilité qu'on est en train d'étudier. Toutes ces malades sont suivies. Hein. Ils sont suivis tous les 6 mois, tous les ans. Avec des tests, avec un scanner, et on voit ce qui se passe. On ne les laisse pas dans la nature. Si vous avez une endoprothèse, il faut absolument que vous acceptiez de vous soumettre à la surveillance. Sans ça, il ne faut pas avoir d'endoprothèse.
Et avec une prothèse conventionnelle, habituelle, j'ai pas noté le matériau.
Oui,
on n'a pas de risque de revenir entre vos mains.
Extrêmement faible. Extrêmement faible, le risque de dilatation de faux anévrisme est extrêmement faible.
De faux anévrisme, vous dites.
Oui, c'est-à-dire de dilatation au-dessous, au niveau des zones de suture. Hein.
Oui, tout à fait, le risque est assez faible, c'est même quasi pas anecdotique, c'est pour ça qu'on surveille un peu, mais ce qui est assez étonnant par rapport à l'innovation, et vous parliez de tester le matériel sur bande d'essai, Il est surprenant de constater qu'Alexis Carrel, au début du siècle, a trouvé en regardant des couturières faire des surjets un moyen de suturer les artères avec du fil. On utilise toujours cette méthode, car maintenant elle a été testée, c'est la meilleure de toutes. C'est-à-dire que ce fil qu'on passe dans l'artère, comme ça, comme, de façon très simple, hein, est le plus résistant de tous les matériaux, et c'est la meilleure capacité, c'est la meilleure suture en termes de solidité. On a tout essayé, des agrafes, des mécanismes, des vis, tout. On arrive à faire envoyer des satellites dans l'espace, mais pour coudre, pour rattacher un morceau d'aorte à une prothèse, le mieux, c'est encore le fil, ce qui peut paraître incroyable. Voilà, ça s'entend, mais ça tient toujours.
Oui. Merci. Vous nous avez montré tout à l'heure qu'en fonction du diamètre de la chose, le risque devenait très important à partir de 5 cm. Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant, c'est-à-dire un effort, un truc comme ça ? La rupture se produit, bon, en dehors de tous les risques que vous avez évoqués, est-ce que la personne qui va se mettre à courir, ce facteur de risque est beaucoup plus important ?
Mais si vous voulez, on a eu récemment, il y a quelques jours, un bon truc. Là, c'est quelqu'un qui avait une aneurysme de l'aorte abdominale, puis qui a fait une épreuve d'effort sur un tapis roulant, puis qui a explosé son anévrisme. C'est pas l'effort, c'est l'augmentation de la pression artérielle, puisque c'est, d'après la loi de Laplace, la tension sur les parois est égale à la pression multipliée par le rayon. Hein. Si vous augmentez la pression à l'intérieur, c'est sûr que vous prenez un risque plus important de rupture. Hein. Mais ceci dit, la plupart des gens rompent sans faire d'effort. C'est pas toujours en faisant un effort que l'anévrisme se rompt. C'est pas automatique, mais c'est sûr que quand vous avez une équation avec deux... Hein, ceci dit, vous savez, la paroi de l'aorte est faite de fibres d'élastine et de fibres de collagène, comme un sac de commission, si vous voulez, qui assure à la fois la rigidité puis la souplesse, puisque l'aorte, elle fait, avec la systole, elle transmet. Si vous avez un pouls, c'est que vous transmettez l'onde. Hein. Donc, il y a une fragilisation du fait de la maladie athéromateuse de ces fibres qui se cassent. Et donc, à partir du moment où les fibres se cassent, la paroi, si vous voulez, se dilate. Et une fois que c'est commencé, ça ne s'arrête pas. Hein. C'est une vie sans fin. Hein.
Donc, à partir du moment où on a un diamètre de 4 cm, il est recommandé de ne pas faire des efforts violents.
Il est recommandé de bien surveiller et de le faire prendre en charge. Parce que, hein.
Alors, autre question qui n'a rien à voir. Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait des matériaux, des matériaux à mémoire de forme qui vont se dilater. Vous les rentrez à quelle température ? Il ne faut pas qu'ils soient dilatés au moment où vous le rentrez.
Ben, on le rentre à la température de l'extérieur, dans un tube, hein, à la température de la pièce. Dans une salle d'opération, il fait 19, 18 degrés, il fait frais. Donc là, il est complètement ratatiné. Et dès qu'il rentre dans la circulation, il est dans un cathéter. Et quand il est dans l'artère, à ce moment-là, on l'ouvre, il s'ouvre, hein, il s'expand tout seul. Puis on donne un coup de ballon pour le dilater un petit peu, pour qu'il se fixe. Mais après, il exerce une pression en permanence. Hein.
Donc la transition, c'est un petit peu au-dessous de 37 degrés.
Oui, et c'est très marrant parce que vous prenez un truc en nitinol, vous mettez dans l'eau froide et tout comme ça, vous mettez dans l'eau à 40, pshou.
Oui, donc vous disiez tout à l'heure, si on faisait le dépistage de quelqu'un à risque a priori qui a plus de 60 ans, mais qui n'a pas du tout de dilatation, on peut penser qu'il ne sera pas sujet à avoir un anévrisme par la suite. Et à l'inverse, quelqu'un qui va avoir déjà une dilatation, est-ce qu'on est sûr que s'il n'est pas pris en charge, on va vers la rupture ? Est-ce que c'est vraiment la conséquence systématique ?
Alors, pour la qualité de vie de nos familles, il conviendrait effectivement que tout le monde fasse dépister, puisque les anévrismes, on ne sait pas pourquoi, ils rompent la nuit, en tout cas les opèrent la nuit, pour la plupart. Ce qui est sûr, c'est que l'évolution anévrismale n'est pas inexorable. En gros, il y a des anévrismes qu'on va dépister qui sont des dilatations de 3 cm de l'aorte, pour lesquelles on n'emploierait même pas le terme d'anévrisme, qui soit surveillé, dont on ne sait pas du tout si elles évolueront sur un vrai anévrisme ou pas. Je crois que passé quelques 4 cm, l'évolution, on le sait que c'est les patients qui vont être amenés à suivre et forcément à opérer. Alors, les guides internationaux, c'est-à-dire les règles qu'on a suite à des études qui ont été faites, mettent en évidence que ce taux il devient significativement important de rupture passé 5 cm. C'est-à-dire que là, on sait qu'il y a beaucoup plus de risques de rupture que le risque de la chirurgie lui-même, qu'on a vu qui est de 4%. Voilà, en gros, on a une évidence de 4,5 cm. C'est vrai qu'on pourrait, certains se sont posés la question, pourquoi pas les opérer plus tôt. Et on sait effectivement que cela est très probable
qui dépassent après les 5, puis 6, 7. Sans savoir par contre, il y a des anévrismes qui se rompent à 5 cm. Le patient dont on parlait, son anévrisme était de 5,2 cm. Donc c'est même pas très gros. Et il s'est rompu. D'autres patients ont des anévrismes de 10 cm. Bon, ils seront rompus, mais qui ne sont pas rompus, qu'on voit en consultation. Donc on peut pas dire.
Attendez les records là ou quoi?
Non, mais on ne peut pas dire tel anévrisme va se rompre.
Moi, j'ai pas beaucoup de certitudes dans ma vie, mais j'en ai une, c'est que j'ai plus intérêt à vous faire prendre en charge. Ça, c'est clair. Vous savez, arriver à 2h du matin dans des urgences d'un grand hôpital avec le ventre plein de sang, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Hein. Vous savez pas qui est là, vous savez pas si le bloc opératoire est libre, vous savez pas, vous savez pas, vous savez pas. C'est extrêmement aléatoire. Alors que si vous faites le bilan à temps et si vous êtes, si vous avez tout le bilan coronaire, respiratoire, etc., vous êtes opéré le matin par des gens qui ont bien dormi, qui sont rasés de près et bien présents dans leur tête, c'est pas pareil que d'être opéré à 2h du matin par des gens qui sont fatigués et qui ont travaillé toute la journée et qui reviennent la nuit. Hein. Donc si vous voulez, je pense que là, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de temps. Hein.
Oui, docteur Gavid.
Jusqu'au dimanche.
Ni la nuit. Oui, docteur Gavid, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je ne vais pas ajouter, je vais poser une question. est-ce que dans l'histoire naturelle de la maladie, enfin dans l'évolution, est-ce que vous avez l'impression que tous les anévrismes se développent de la même façon? Ou est-ce que c'est vraiment fléché par rapport aux facteurs de risque? Et si par exemple on descend beaucoup la pression artérielle, est-ce qu'on diminue l'évolution négative des choses? Est-ce qu'il y a quand même un impact de la partie médicale, la prise en charge médicale par rapport à la complication de l'anévrisme?
Oui, alors ça, c'est une bonne question parce qu'on s'est aperçu que quand on prenait en charge correctement ces malades, le risque de rupture semblait un petit peu diminuer, même pour un même diamètre. Bon, ça, c'est l'étude anglaise qui l'ont montré, c'est-à-dire que les gens s'arrêtent de fumer. Les gens ont une pression artérielle qui est diminuée. Les gens sont sous anti-agrégant plaquettaire, sous statine. Et tous ces facteurs qui traitent la maladie athéromateuse en général peuvent diminuer quand même l'évolutivité de l'anévrisme. Néanmoins, ça, c'est quand on a un anévrisme de 3 cm. Mais quand on est à 49, 45, c'est fini. On sait qu'il va croître. Alors, ce qui est vrai, c'est que la croissance est très variable. Si vous voulez, nous, on a suivi des personnes qui avaient un anévrisme 3, 3,5, 4, bon, 4 cm sur 4-5 ans. Alors là, il faut faire attention quand vous êtes suivi. Il ne faut pas arrêter en disant, bon, ça va, quoi, parce que c'est là où ça ne va plus. Donc, 4-5 ans, et puis pratiquement stable pendant 1 à 2 ans. Et brutalement, en un an, il prend 10 mm et il passe les caps des 5 cm. Et si vous voulez, à ce moment-là, il croît très rapidement et c'est là où il va se rompre. Quand on ne peut pas tout vous montrer, mais que ce matin, on a opéré un anévrisme aortique de 7 cm, dans un monsieur qui avait 55 ans, hein, et découvert de façon tout à fait anecdotique comme ça, par une échographie, hein, alors qu'il était palpable quand même, le type n'était pas obèse. Bon. Et on a trouvé une paroi aortique antérieure, mais extrêmement fine, je veux dire, comme un papier de cigarette. Donc, si vous voulez, lui, c'est passé près. La semaine d'avant, on en avait opéré un qui n'avait plus de paroi en arrière. Hein, il était rompu, mais contenu, si vous voulez. Il reposait sur le rachis. Donc, si vous voulez, c'est une saloperie. Hein. Et puis, en plus, il faut dire les choses jusqu'au bout. Si vous avez une maladie comme, par exemple, malheureusement, certains cancers où la chirurgie est mutilante, et puis en plus, elle n'est pas très efficace, et puis la chimiothérapie derrière ne marche pas toujours. Il y a des cas comme ça où vraiment, bon, on a du mal à pousser les gens vers des interventions lourdes parce que le bénéfice pour eux n'est pas majeur. Mais là, ce n'est pas vrai. On vous enlève votre anévrisme, on ne vous l'enlève pas, on vous le traite, quelle que soit la technique, c'est la plus adaptée à votre cas. Et si vous voulez, quand vous avez une chirurgie conventionnelle, c'est réglé. Hein, vous n'êtes pas diminué. Évidemment, vous avez un terrain, des facteurs de risque qu'il faut prendre en charge. Mais je veux dire, par là, vous avez une vie qui est correcte. Quoi. Donc, je pense que c'est vraiment important de
le souci, c'est qu'il y a un grand nombre de patients qui s'ignorent, de malades qui s'ignorent. C'est ça, le souci.
Juste un mot pour les modèles, pour savoir ce qu'on aurait dû faire, ça met des ballons. Parce que le meilleur modèle d'un anévrisme, on l'a tous, c'est qu'on gonfle un ballon. Et au début, c'est très dur de le gonfler. Et tout d'un coup, ça devient tout mou. L'anévrisme, c'est exactement pareil, à part qu'on ne sait pas quel ballon vous avez, quel est le degré de résistance de votre ballon. Alors, bien sûr, d'un point de vue scientifique, on a des pistes. C'est l'inflammation de la paroi, il y a des enzymes qui mangent un peu la paroi. Il y a des facteurs donc, qu'on pourra peut-être dans l'avenir contrôler, mais actuellement, il n'y a aucun traitement médical d'un anévrisme d'aorte abdominale. Il faut contrôler bien sûr les facteurs de risque, parce qu'en plus, si vous avez un anévrisme de 3 cm qui va évoluer, plus vous serez en forme pour le jour de l'opération, mieux c'est.
On a parlé du... Oui, allez-y.
Excusez-moi. Vous dites que l'anévrisme va évoluer et nécessite donc une surveillance. Puisqu'on est sûr qu'il va évoluer, pourquoi n'intervenez-vous pas plus tôt ?
C'est une bonne question. Bon, on se la pose tous les jours, mais en fait, il y a une bonne réponse. C'est que vous avez vu que le risque opératoire était de 4%. Le risque opératoire, il ne dépend pas du diamètre de l'anévrisme. Vous avez le même risque si vous avez fait opérer d'un anévrisme de 5 cm et un anévrisme de 7 cm. Il dépend par contre si c'est au-dessus des artères rénales, mais ça c'est autre chose. Or, vous allez imposer à quelqu'un qui a un risque de rupture de 1%, même pas par an, un risque opératoire de 4%. Ça, c'est pas possible. Vous imposez à quelqu'un, vous exposez quelqu'un à un risque qui est plus important que le risque de rupture de sa maladie annuelle. Donc si vous voulez, on s'est aperçu en suivant les gens qu'à 5 cm, tout le monde n'est pas d'accord, les Anglais disent 55 mm, parce qu'ils sont anglais, ils roulent du mauvais côté, bon, c'est particulier. Mais si vous voulez, disons à 5 cm, c'est admis partout. Hein. Là, on admet qu'il y a un risque de rupture qui devient nettement supérieur à l'évolution, à la chirurgie. Et là, on y va sans arrière-pensée. Parce que si vous voulez, il faut se mettre aussi à votre place, évidemment, mais à la nôtre. Quand on a une complication avec un malade, il faut vraiment... Si vous voulez, quand on sait que de toute façon il allait rompre et qu'il fallait le faire, bon, ça va. Quand on est dans des indications un peu ambiguës, ça passe difficilement. Hein.
Docteur Gavid.
Oui, pour compléter la réponse de Jean-Baptiste Rico, je pense que toute intervention médicale, quelle qu'elle soit, il y a toujours un problème bénéfice-risque. C'est extrêmement important. Donc, on ne peut proposer, et ce bénéfice-risque est toujours apprécié de manière populationnelle, c'est-à-dire sur des statistiques larges, mais pas sur un individu spécifique. Mais nous, en tant que médecins, on est forcé de toujours raisonner par rapport à bénéfice-risque. Qu'est-ce que vous risquez si on ne fait rien ? Qu'est-ce que vous risquez si on fait quelque chose ? Et il faut que le quelque chose soit potentiellement positif pour le patient. Et donc, ça, c'est important. On ne peut pas tout faire en médecine, ce n'est pas possible, pour des questions de prix et pour des questions aussi de bénéfice pour le patient. Ça, c'est important pour toute intervention.
On a parlé des facteurs aggravants, le tabac, l'hypertension artérielle. Est-ce qu'il y en a d'autres que cela ? Est-ce que les antécédents familiaux jouent aussi un rôle ?
Oui, fatalement. L'anévrisme rentre dans ce qu'on appelle les maladies vasculaires. Il est évident que les gens qui ont fait des accidents vasculaires autres ont plus de chances de faire un anévrisme. Mais on ne peut malheureusement pas modifier les antécédents. Ça, c'est clair. Alors, c'est pour ça que je vous ai parlé que l'intervention des médecins, de nous, médecins généralistes, c'est essentiellement ce facteur de risque qui sont modifiables. On ne changera ni le sexe des patients, ni l'âge des patients, ni les antécédents personnels ou familiaux. Par contre, on peut intervenir largement sur le tabac, sur la pression artérielle, sur le diabète, sur l'hyperlipidémie et sur le poids. Ça, c'est possible dans la mesure où le patient en comprend les objectifs et que le médecin y met les moyens thérapeutiques.
Oui, madame, allez-y. Pardon.
Je voulais vous demander, quand on a été opéré d'un anévrisme de l'aorte, est-ce qu'on risque plus qu'un autre d'en avoir d'autres après ? Moi, j'ai eu un anévrisme post-traumatique et est-ce que je risque d'en avoir ailleurs, enfin, plus loin dans l'aorte ?
Un anévrisme post-traumatique d'où ? De l'aorte thoracique ?
De l'isthme de l'aorte.
Oui. Bon, ça, c'est autre chose, si vous voulez, c'est que dans la décélération, vous avez l'aorte thoracique qui est fixée par les artères intercostales qui ne bougent pas, hein. Et la crosse de l'aorte qui bouge. Donc quand vous avez une décélération, un impact brutal, vous avez une force de cisaillement qui coupe l'aorte et qui traîne. Ce n'est pas un vrai anévrisme, c'est un faux anévrisme, c'est-à-dire c'est un hématome autour. Si
il est venu 35 ans après l'accident.
Oui, mais c'est des faux anévrismes. On, on, on connaît ça dans les formes chroniques. Ça n'a rien à voir avec la maladie athéromateuse. Ça n'a rien à voir. C'est une rupture mécanique de la paroi due au traumatisme. Donc, à partir du moment où vous avez eu ça, si vous n'avez pas un nouveau traumatisme, vous n'avez pas de risque d'avoir un anévrisme plus que quelqu'un d'autre, puisque ce que vous avez eu, c'est une rupture de l'aorte, ce n'est pas un anévrisme comme on vient de le décrire. Là.
Mais qui a mis 35 ans avant que ce soit découvert.
Oui, mais parce qu'il a cru lentement, doucement, et puis il s'est calcifié, il devait être très très calcifié, sans doute, comme toujours.
Et donc années. J'ai une prothèse en Dacron, et oui. J'ai alors une possibilité de 20-30 ans. De...
Ah non, non, vous voilà. Avez... Non. La prothèse en Dacron, c'est éternel.
C'est éternel, bon.
Éternel.
Et donc, moi, elle a été cousue, mais aussi collée à la superglue.
Oui, c'est toujours ça qu'on fait, parce que pour éviter les fuites. Non, non, c'est... C'est la procédure normale.
Bon, merci.
Je voulais demander pourquoi il y a plus de risques chez les hommes que chez les femmes.
Ouais, parce que c'est en partie, c'est un risque. La maladie athéromateuse est liée, si vous voulez, l'anévrisme, pas celui de madame qui est traumatique, hein, l'anévrisme athéromateux, il est lié à la maladie athéromateuse. La maladie athéromateuse est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme jusqu'à présent.
Expliquer peut-être la maladie athéromateuse.
Si vous voulez, c'est le dépôt de lipides dans la paroi de l'aorte qui entraîne le rétrécissement des artères ou la dilatation. Hein. Et parce que les femmes sont protégées par les hormones jusqu'à un certain stade, jusqu'à la ménopause, donc il y a une protection quand même assez longue, l'homme ne l'est pas. Deuxièmement, parce que dans les habitudes de vie, l'homme fumait beaucoup plus que la femme, ce qui s'inverse actuellement. Ouais. Hein. Donc là, il y a effectivement, on voit effectivement des femmes qui ont des anévrismes aortiques, mais c'est beaucoup moins fréquent que chez l'homme. Et le dépistage n'est pas rentable, parce que c'est tellement rare que ça coûterait tellement cher, si vous voulez, qu'on l'applique qu'aux hommes de plus de 60 ans. Hein. Parce que là, on a 5% d'anévrisme. Par contre, si dans la famille, que vous soyez homme ou femme, vous avez quelqu'un, par exemple, un parent qui a eu un anévrisme, vous avez 4 fois plus de chances que la population normale d'avoir un anévrisme. Donc, dans ces familles, nous, quand on a un malade qui a un anévrisme, on demande que les frères, les sœurs aient une échographie abdominale. 50-60.
Donc, vous conseillez quoi, alors, aux gens qui sont fumeurs, qui ont plus de 60 ans, qui ne sont pas forcément obèses, d'ailleurs, d'après ce que vous disiez, mais donc d'aller voir leur médecin et de solliciter palpation d'abord et échographie ensuite?
Oui, alors moi, je pense qu'il faut prendre... je pense que le risque est tellement important. Quand vous fumez, vous êtes hypertendu, vous avez une maladie coronaire. En général, quand même, il se trouve quelqu'un quand même qui vous fait une échographie abdominale parce que ça rentre dans les bonnes pratiques. Maintenant, c'est quand même pas très cher et je pense que c'est quelque chose qui, même s'il n'est pas pris en charge automatiquement, complètement, moi, je préférerais avoir. Hein.
Oui. Ça repose de manière plus générale le problème de la prévention et de l'organisation du système de soins en France. Il a dit tout à l'heure qu'en Angleterre, des personnes passaient pour faire des échographies. C'est ce qu'on appelle le système des nurses. C'est-à-dire que c'est de nos médecins qui font un programme de dépistage et de prévention. C'est pas du tout... on parle beaucoup de prévention et de dépistage en France, mais c'est pas du tout quelque chose qui est décliné au niveau de la médecine ambulatoire, de la médecine générale. C'est dommage. C'est dommage parce que il y a une expérimentation qui a été faite pas loin de chez nous depuis 2 ans, à Châtillon-sur-Touraine, à côté de Parthenay, où on s'est aperçu que implémenter, mettre des infirmières fléché par rapport à des tâches de dépistage et de prévention, avait un impact tout à fait important sur la santé des populations. Et ça, je pense que c'est ce qu'on appelle en France un terme nouveau, qui s'appelle la délégation de tâches, et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir développer dans les années à venir, et il faut que les politiques y pensent, parce que ça coûte peut-être de l'argent, mais ça rapportera en santé publique beaucoup d'autres argent qu'on ne dépensera pas par rapport à des interventions comme on vous a montré à l'instant. Et je pense que la délégation de tâches pourrait être un des thèmes des prochaines tables rondes de Vendée France.
Bonne idée, vous notez. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Le micro circule.
Pour revenir sur le dépistage, les problèmes qui fâchent, il y a 8 ans, On avait fait une étude pilote en Poitou-Charentes pour le dépistage d'anévrisme aortique. Alors on s'était appuyé sur les médecins généralistes qui avaient été assez difficiles parce qu'il y avait un remboursement des examens qui était oui, non. Finalement, moi j'étais allé à la Caisse nationale d'assurance maladie à Paris pour... Bon, à cette époque, il n'était pas encore publié, mais on commençait à savoir qu'il fallait mieux le faire. Et on a eu un accueil extrêmement poli, mais ça s'est arrêté là, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en place une étude clinique où on puisse répondre oui, non, comme on fait tous les autres pays européens, on n'a rien fait comme d'habitude. Donc maintenant, on suit ce que disent les autres, comme d'habitude. Donc si vous voulez, c'est un peu embêtant, quoi. Mais je suis assez sceptique sur... ouais, ça a peut-être changé, mais je suis assez sceptique sur la possibilité de prendre des décisions en matière de santé. Je pense qu'on n'a pas le courage politique qu'il faut. Hein. C'est comme ça. Hein.
Oui, mais monsieur, vous allez pouvoir l'avoir lors de votre mandat de président de la Société française, voilà. Puisque ça peut être une mission, surtout au regard du prix d'une échographie qui coûte, je crois, une quarantaine d'euros. Donc 40 euros pour dépister un anévrisme, ça ne paraît pas très cher, tout de même, surtout chez les patients sélectionnés de plus de 60 ans.
Puis la conférence, elle est enregistrée, on va l'envoyer. En matière de recherche, est-ce que vous pouvez nous faire un point, nous dire, là on a vu que le CHU était à la pointe sur les techniques, mais est-ce que la recherche avance aussi dans d'autres domaines pour les traitements éventuellement ?
Sur les anévrismes ?
Oui, précisément.
Alors si vous voulez, il y a une recherche fondamentale qui est menée essentiellement aux États-Unis, et dans certains laboratoires français de l'INSERM, étudie la possibilité de traitement médical des anévrismes. Donc ça peut paraître, c'est pas efficace actuellement, mais c'est sûr qu'il y a des molécules qui sont testées chez des souris, des rats, etc. C'est vraiment de la recherche fondamentale. Il y a aussi des études génétiques qui sont montées sur ça. Et puis parallèlement à ça, il y a des études qui sont plus appliquées, qui visent à développer des endoprothèses plus performantes. Et puis d'autres techniques, ça aussi que Jérôme, tu peux en parler, si vous voulez, la celluloscopie que vous avez vue entrevue, il y a des problèmes techniques qui se posent, donc on essaie de développer des instruments pour faciliter ces procédures, qui pourront d'ailleurs être appliquées aussi en chirurgie ouverte.
Hein. Oui, ça fait bon travail avec l'INSERM, avec l'unité 927, ce qui nous permet de développer des nouveaux instruments, donc là avec brevet français, voilà, qui servent à la fois à la chirurgie classique et à la chirurgie laparoscopique. C'est-à-dire le fait d'opérer sur vidéo stigmatise des problèmes dont on se rend compte qu'ils peuvent nous gêner, même si c'est de façon moindre en chirurgie classique aussi. Donc on arrive à créer de nouveaux instruments qui rendent nos gestes plus précis, un peu plus... Voilà, et on réfléchit du coup à tout ce qu'on fait, les anastomoses, les sutures, quels fils. Et ça permet de concevoir à la fois de nouveaux instruments, de nouvelles approches, et même des fois de nouvelles voies d'abord, de nouvelles interventions. C'est très enrichissant. Et voilà, on travaille sur des thématiques, notamment la thématique des artères rénales. Donc ça permet après de prolonger ces études sur le problème d'insuffisance rénale, sur les pontages. Donc c'est plus l'anévrisme, c'est d'autres pontages. C'est en tout cas très enthousiasmant. Et c'est vrai qu'on est, on peut dire, quand même assez leader dans ce domaine. Donc voilà, on travaille en collaboration avec l'équipe du professeur Moko et Wei à l'INSERM de Poitiers.
C'est des études sur le cochon. Hein.
Sur le cochon. Gentil cochon.
On n'a pas parlé du temps, on a parlé des complications post-opératoires vaguement dans le détail, quelles sont-elles, et le temps d'hospitalisation aussi, selon les différentes chirurgies aussi.
Alors, le temps d'hospitalisation a bien diminué avec la nécessité d'avoir une durée moyenne de séjour courte pour des raisons économiques, mais aussi avec les progrès de la chirurgie et de la réanimation. En fin de compte, si vous voulez, une prothèse aortique, quand ça se passe bien, on dirait 8 à 10 jours. Quand c'est en laparoscopie, comme fait Jérôme, c'est un peu plus court, mais comme il dit, on a tendance à les garder un peu parce qu'on n'est pas tout à fait sûr quand même. Mais on dirait 7 jours, 6 jours. Hein. Donc on gagne 1 ou 2 jours. Avant, c'était 12 à 15 jours. Hein. Donc on a diminué les durées d'hospitalisation. On ne peut pas encore faire ça en hôpital 2 jours. Hein. Ce n'est pas possible. Néanmoins... pourquoi pas, si on va dans une chirurgie totalement endovasculaire avec des dispositifs qui peuvent être mis par voie percutanée, comme on le fait pour les stents. Quand on met des stents dans les iliaques, le malade, il sort le lendemain. Donc, si vous voulez, pourquoi pas, mais on n'en est pas là. Parce que la miniaturisation, comme vous disiez, se heurte à un problème de solidité du textile et solidité du matériau qu'on met en place. Il faut quand même qu'il y ait une très grosse résistance du matériau, et la miniaturisation, ça ne va pas avec la résistance.
Oui, et les complications post-opératoires, quelles sont-elles?
Alors, tout peut arriver. On est prêt à tout. En général, la complication la plus fréquente, c'est l'insuffisance respiratoire, parce que ce sont des gens qui fument avant, qui donc ont une capacité respiratoire qui est diminuée. Et quand on vous fait une incision, alors ça s'applique moins à la cellule, mais quand on fait une incision, comme vous respirez avec vos muscles abdominaux, vous respirez beaucoup moins bien et vous vous encombrez. Et donc, quand vous vous encombrez, vous pouvez faire une pathologie, une surinfection là-dessus. Et à ce moment-là, vous pouvez être réintubé. Et ça, c'est-à-dire ventilation artificielle. Et là, c'est très, très, très embêtant. Donc, si vous voulez, ça, c'est la complication. Vous pouvez faire un infarctus. Mais en général, on a un peu fait le bilan avant. Et puis, il y a des complications qui sont plus graves. C'est l'ischémie du côlon, la nécrose du côlon qui peut arriver. Tout ça, alors, tout ça, on le dit aux malades, mais la fréquence de ces complications est quand même extrêmement variable. Faible.
Et au bout de combien de temps le malade peut-il reprendre ses activités normales? Doit-il avoir une hygiène de vie aussi particulière après l'opération?
Nous, on le fait partir, je vous dis, 8-10 jours, et ensuite, quand on le revoit un mois après, il est mieux. Encore un peu fatigué en général. Mais il reprend, je dirais qu'il faut quand même, pour une chirurgie conventionnelle, il faut 2 mois. Je ne sais pas ce que tu en penses quand vous les revoyez.
Je la vois pas souvent.
Mais pas souvent?
Parce que j'en fais pas beaucoup opérer.
En cellio chir, c'est plus rapide.
Oui, ben, en cellio, ça change pas la récupération. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les patients sont de suite beaucoup mieux. C'est-à-dire même dès le lendemain, ils disent on a pas mal, c'est très bien. Donc ils se retrouvent en 4-5 jours très rapidement mieux pour marcher. Mais après, pour les efforts plus importants, ils restent fatigués. On reste, en fin de compte, que ce soit par chirurgie classique ou par cellio, on peut dire qu'après un mois, on se sent plutôt bien. Mais pour les gros efforts, on est encore fatigué pendant encore un mois. Donc bon, ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent plus faire la vaisselle. Mais ça n'est pas partie des gros efforts. Mais disons que pour les gros efforts, on est encore un peu fatigué. Il faut comprendre que le fait d'interrompre le flux sanguin de l'aorte, pour le cœur, c'est un ralentissement comme quasiment un marathon. Donc c'est un vrai effort. Et il faut récupérer l'opération. C'est une vraie grosse opération. C'est pas une appendicite, c'est une vraie grosse opération dont le corps doit se remettre. Même quand ça se passe au mieux, on en reste un peu fatigué. Mais après, par contre, on a une restitution comme avant, c'est-à-dire qu'on est mieux. Puis surtout, on a un poids en moins qui était ce risque permanent, qui est quand même angoissant, parce que quand, même, quand vous avez découvert l'anévrisme, qu'on vous surveille ou qu'on vous l'opère, c'est quand même une vraie angoisse. Quand vous dites, j'ai une bombe à retardement dans le ventre, je ne sais pas quand elle va péter, parce que l'histoire de 5 cm, 5,2, 6,1, quand c'est pour vous, c'est plus pareil. Quoi. On se demande si c'est bien mesuré, si on est bien sûr. Voilà, c'est différent, parce que si ça se rompt, pour qui ça se rompt, c'est 100% la rupture. Voilà. Donc, cette angoisse en moins fait que quand même, les gens vivent bien mieux le post-opératoire. Même l'opération, parce qu'à un moment, il faut y aller, puis là, ça y est, enfin, on va régler le problème. Voilà, en tout cas, on va tout faire pour le régler.
Il y a l'échographie pour la détecter. Vous avez dit aussi qu'on pouvait détecter par palpation. Hein? Et à partir de quel diamètre ça peut se voir? C'est pas quand ça fait un centimètre, c'est...
Par palpation, ça dépend de l'obésité ou pas. Quand les gens sont obèses, et quand vous avez un périmètre abdominal de 1,10 m, vous ne pouvez rien palper. Par contre, quand vous êtes normal ou fin, vous pouvez palper un anévrisme de 5 cm, à peu près. Mais l'autopalpation, ce n'est pas évident. Par contre, un médecin qui vous examine sur un plan dur, si vous êtes bien contracté, en évidence, mais pas au-dessous de 5 cm. Néanmoins, si vous voulez, on passe à côté de beaucoup d'anévrismes parce que les gens sont quand même assez enrobés de plus en plus. Et c'est très difficile de palper un anévrisme chez quelqu'un qui est obèse. On ne sent rien.
Et puis c'est un métier quand même. Donc, l'autopalpation, comme vous dites. Est-ce qu'il peut y avoir des douleurs? des douleurs qui sont liées directement à l'anévrisme, ou est-ce que les gens viennent vous voir, vous, de médecin généraliste, parce qu'ils ont une douleur abdominale, et c'est à l'occasion de cette douleur qui n'est pas forcément liée que vous allez pouvoir détecter un anévrisme ?
C'est possiblement quelque chose qui peut arriver, mais dans mon expérience, je n'ai pas encore découvert, j'ai découvert une seule fois un anévrisme comme ça pour des douleurs banales, un anévrisme qui existait, et c'était peut-être la cause des douleurs. Pour des raisons diverses et variées, la patiente n'a pas voulu se faire opérer, la famille s'y opposait. Et finalement, ça s'est très mal passé, parce que c'est une patiente qui est décédée en 3 heures de temps.
Bien, une question plus réjouissante.
Insister dans les régions, dans les trucs qui sont pas
réjouissants. C'était une femme en plus.
C'était une femme.
Ton...
Qui n'avait pas fumé.
Vous nous compliquez là.
La médecine,
nous, on aime bien que ça soit dans des cadres.
La médecine n'est pas une science exacte. Avec quel âge, elle avait 82 ou 3 ans, ou un peu plus peut-être. Et elle était surveillée, on faisait des échographies régulièrement, mais elle ne voulait pas se repérer.
Oui, aussi autre chose, c'est qu'il y a des gens qui disent, quand on leur parle de ça, ils disent, oui, oh bah, attendez, non, je suis à 75 ans, je ne vais pas m'opérer, parce que finalement, ça va se rompre, je vais mourir tout de suite, c'est pas plus mal. Mais c'est pas vrai, hein. On ne meurt pas tout de suite. On est saigné comme un lapin, mais on a le temps de le voir venir. Hein. Quand ils arrivent aux urgences,
c'est spectaculaire.
C'est vraiment pénible. Hein. Quand ils sont inopérables, parce que quelquefois, on sait très bien que c'est râpé. Quoi. Ils ont le ventre qui est gonflé comme ça, plein de sang, mais ils sont encore vivants. Hein. Donc on les calme, on les sédate, mais si vous voulez, ils se voient mourir. Donc c'est pas du tout une mort confortable, comme un infarctus brutal. Toc, poum. C'est pas comme ça. Hein. C'est si vous voulez, que si vous avez un anévrisme aortique, il faut vraiment, avant de nous, quand on contre-indique un malade, hein, ça arrive, c'est exceptionnel. Hein. Surtout avec les endoprothèses, on essaie de toujours trouver une solution pour éviter que ça se passe. Quoi.
Vous disiez, on peut aussi mourir de ça sans le savoir. Enfin, sans le savoir, sans que la famille ou sans que les proches le sache, c'est pas toujours diagnostiqué après le décès. Donc en fait, ça pourrait toucher plus de monde que ce qu'on pense.
Mais ça touche plus de monde. Les statistiques où c'est le plus fréquent, c'est la Finlande et la Suède, pas maintenant, mais il y a 5 ans, où dès qu'on mourait, une nécropsie systématique, c'était la loi. Hein. Donc on savait exactement de quoi mouraient les gens. Et là, les ruptures d'ADN, c'est là où on sait que la mortalité des ruptures d'anévrisme est 80%, parce qu'il y a plus de 70% des malades chez lequel on a découvert une rupture d'anévrisme qui n'avait jamais mis un pied à l'hôpital. Ils sont morts avant. Quand ça se rompt dans l'abdomen comme ça, vous mourrez à domicile et puis il est mort. Quoi. Donc le diagnostic qu'on fait à l'hôpital, c'est juste sur la frange qui arrive vivant. Et ça représente, la frange qui arrive vivant à l'hôpital, c'est 20% des anévrismes fissurés, si vous voulez. Les autres, il y en a 80% qui sont morts avant. Et sur ces 20% qui arrivent à l'hôpital, c'est un échantillon, si vous voulez, sélectionné, si je puis dire, où ils ont pu te tenir parce que ça ne saigne pas trop, ça se colmate, etc. Et là, on en tue quand même un sur deux.
Oui. On n'en tue pas, on n'en sauve pas. N'empêche, bon, à l'heure actuelle, un service, comme vous avez vu, M. Ricaudet est très critique sur les endoprothèses, de toute façon qu'il a lui-même évalué et permis l'arrivée en France, c'est-à-dire l'arrivée très critique. Et ça a permis, dans le service, de donner une deuxième dimension, puisque les endoprothèses, nous, on va l'utiliser chez les patients très sélectionnés. Mais maintenant, M. Ricaudet est arrivé à faire accepter à l'hôpital qu'on ait des endoprothèses spécifiques qui nous permettront de les mettre justement des anévrismes rompus. Parce que le problème de l'anévrisme rompu, techniquement, sans vous parler trop technique, mais vous imaginez bien qu'une fois qu'on ouvre le ventre, c'est un peu comme une pompe qui se vide entièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui contient l'anévrisme, et on a un décès très rapide. Alors que là, il s'agirait de pouvoir exclure l'anévrisme par l'intérieur, comme vous l'avez vu, même si la qualité est moins bonne, ça permet en tout cas de colmater le saignement, et quitte à opérer le malade, même dans la demi-heure qui suit. Et on pense, enfin, on est même sûr, d'avoir de meilleurs résultats. Mais on ne voulait pas trop vous en parler, parce que si effectivement on dit aux gens, mais maintenant on va au moins diminuer la mortalité des anévrismes rompus, ils ne vont plus venir que quand ils seront rompus. Non, non, hein, ça reste très très grave, c'est sûr.
Je ne pense pas, hein, parce que vu l'image qu'il nous a donnée tout à l'heure, voilà. Je pense que personne n'a envie d'atteindre la rupture.
Si vous voulez plomber une soirée, vous nous invitez tous les trois. Et la fin du repas sera vraiment gaie.
On peut encore prendre quelques questions dans la salle. Oui.
Attendez, je vais venir avec.
On vous amène le micro, c'est mieux.
Oui, existe-t-il des anévrismes où vous ne pouvez pas intervenir, en particulier au niveau rénal?
Alors, quand les anévrismes sont soit sur l'artère rénale, soit au niveau de l'aorte, juste en regard des artères rénales, on est obligé. Là, les endoprothèses sont difficiles à mettre en place parce qu'il y a des zones de. Si vous voulez, on n'arrive pas à avoir l'étanchéité puisqu'il y a des artères qu'il faut continuer à vasculariser. Alors, on a mis ces quelques malades des endoprothèses qui étaient bifurquées. Bon, je ne vous ai pas montré ça parce que ça, c'est assez compliqué, si vous voulez. C'est-à-dire, dans l'endoprothèse, on fait des trous. Alors, c'est fait sur mesure. Ça vaut 20 000 euros, déjà, la construction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse le scanner et on détermine l'endroit exact où se trouvent les branches dans un plan qui est transversal et longitudinal. Et on fait et le constructeur fait des trous à ce moment-là. Et une fois qu'on pose l'endoprothèse, on cathétérise l'artère en passant par les trous et ensuite on met une autre endoprothèse dedans. Bon, c'est vraiment c'est difficile à faire. La durabilité de cette technique n'est pas connue vraiment parce que c'est vraiment très très récent. C'est fait par un laboratoire Cook, qui est un laboratoire australien avec lequel on travaille. Hein. Mais si vous voulez, c'est quand même à diffusion très très restreinte avec un centre expert en France, un seul. Et la personne vient avec nous, enfin les malades sont opérés à Poitiers, mais c'est avec son aide qu'on les met. La chirurgie permet de répondre à cette question, puisqu'on fait des voies d'abord, qui sont, à ce moment-là, on est obligé d'ouvrir non seulement l'abdomen, mais le thorax aussi. On fait des thoraco-frénolaparotomies, on ouvre le nom. Et à ce moment-là, on bascule, si vous voulez, ça bascule l'aisance sur le côté, et on arrive à voir les orifices artères, et on revascularise tout, c'est-à-dire l'aorte, les artères rénales, c'est d'ailleurs assez facilement accessible par laparoscopie, puisqu'on a une voie d'abord qui permet de voir au-dessus des artères rénales, mais ce n'est pas très, très facile quand même à faire par laparoscopie. C'est une technique qui est difficile, mais on y arrive. Hein. Ceci dit, on paye en risque opératoire, on passe de 4 à 10, facile. Néanmoins, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est le mieux qu'on puisse faire. Mais on peut faire. On fait, on en a. Alors, c'est beaucoup plus rare, heureusement, que les anévrismes sous-rénaux. C'est même pas 1 sur 20. Donc, si vous voulez, 5%. Quoi. Donc, c'est beaucoup plus rare.
Une ou deux dernières questions? Non? Ça y est, voyez. Vous avez tout
c'est
dit
bien, c'est bien. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu. Je pense qu'on était très contents d'être là avec vous ce soir. Et puis, voilà.
Merci beaucoup. Juste... Juste avant, prenez pas tous rendez-vous avec le docteur Gavid, il ne va pas fournir pour le dépistage. Je vous donne rendez-vous maintenant au mois d'octobre. La date n'est pas encore fixée, mais on vous la redira en temps et en heure. La prochaine fois, nous parlerons de la douleur. Venez nombreux. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.